Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Merci d'être là pour cette nouvelle soirée organisée par les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, certains d'entre vous savent peut-être que les éditions ont plusieurs missions. D'abord, publier des ouvrages, mais aussi les faire connaître et plus encore en débattre de la façon la plus contradictoire possible. Alors, pour montrer aussi que les éditions de l'EHESS remplissent leur fonction de contribution au débat public, elles ont publié dans les derniers mois, sauf pour Henrik, je me souviens plus, ton livre a été publié en 2009, donc presque déjà plusieurs années, trois ouvrages qui représentent chacun des approches différentes et qui contribuent à leur façon aux études de genre. Il nous a semblé qu'il y avait donc là une cohérence en termes de ligne éditoriale, tout simplement, et qu'il valait la peine de la valoriser en vous proposant un débat large sur des questions qui sont évidemment aujourd'hui au cœur du débat public. Alors, nous avons privilégié, on aurait pu aussi varier les disciplines, on aurait pu aussi remonter un peu plus loin, mais Irène Théry, qui est là, je pense, en dira quelques mots, un ouvrage encore plus ancien. Irène Théry a beaucoup publié, je la remercie d'ailleurs, d'ouvrages aux éditions de l'EHESS, mais dans la collection Enquête, je le dis en passant, un volume très important, ce que le genre fait aux personnes, et nous aurons là l'occasion sans doute de revenir. Mais évidemment, nous avons privilégié l'anthropologie, avec Emmanuel Desvaux et Henrik Porquerès, et puis la sociologie, avec Irène Théry, et comme président de séance et organisateur, si j'ose dire, des débats, aussi un autre sociologue, Cyril Lemieux, qui est par ailleurs membre du bureau et que je remercie beaucoup, parce que je connais ses charges de travail, d'être présent ce soir. Voilà. Alors, merci encore une fois à vous, et puis aussi aux auteurs des éditions, de prendre leur temps, car Cyril Lemieux aussi est un auteur des éditions, pour venir débattre autour d'ouvrages que nous publions. Et je te laisse la parole, cher Cyril. Je pense que tu vas être plus précis dans la façon de présenter le débat que je ne l'ai fait. Bonne soirée à tous.
Merci Christophe. Bonsoir à tous. Donc il me revient effectivement d'animer cette soirée que les éditions de l'école ont eu la très bonne idée d'organiser, après que leur catalogue s'est enrichi ces derniers mois de pas moins de 4 ouvrages ayant trait à la question du genre, de la filiation, de la procréation. Alors, l'ouvrage d'abord dirigé par l'anthropologue Henrik Porquerès, qui est directeur d'études, donc qui est à ma droite, vous avez les noms qui figurent, vous reconnaissez les personnes. Un ouvrage qu'il a dirigé qui s'intitule « Défis contemporains de la parenté ». L'ouvrage également écrit par la sociologue Irène Théry, qui est à mes côtés, directrice d'études également à l'école, intitulé « Des humains comme les autres », et puis un ouvrage qu'elle a dirigé plus récemment, « Mariage de même sexe et filiation ». Et on pourrait aussi évoquer, effectivement, comme Christophe Prochasson l'a fait, un livre, un volume un peu plus ancien, mais pas trop, « Ce que le genre fait aux personnes ». Et puis enfin, l'ouvrage très récent aussi de l'anthropologue Emmanuel Desvaux, qui est à mes côtés, qui est lui aussi directeur d'études à l'école, ouvrage intitulé « Avant le genre, triptyque d'anthropologie hardcore ». Il expliquera tout à l'heure ce que veut dire le sous-titre. Alors, étant donné que j'apparais moi-même dans cette affiche au titre de co-auteur d'un ouvrage, lui aussi récemment publié aux éditions de l'école, dans la série « Faire des sciences sociales », un ouvrage qui se pose la question de savoir quelles sont la place et la fonction de la critique dans les sciences sociales. Je me propose ici d'introduire le débat qui nous rassemble sous cet angle un peu spécifique, celui de la critique. Alors, dans l'ouvrage que j'ai dirigé avec ma collègue Pascal Haag, nous avons défendu l'idée que dans le processus de production du savoir en sciences sociales, la critique intervient continuellement, du début à la fin, et schématiquement, vraiment schématiquement, nous avons distingué 3 moments dans ce processus qui sont donc aussi 3 moments particuliers de l'exercice critique. Le premier, celui du fondement critique de la démarche d'enquête, le second, que nous avons appelé celui du fonctionnement critique de l'espace scientifique, Et enfin, le dernier, celui des effets critiques dont les sciences sociales sont porteuses vis-à-vis des sociétés qu'elles étudient. Donc je vais reprendre les choses dans cet ordre et d'abord évoquer donc pour commencer le fondement critique de la démarche d'enquête, c'est-à-dire en somme le décalage critique que les sciences sociales introduisent d'emblée avec le sens commun, disons, avec les catégories socialement dominantes. Et de ce point de vue, l'ensemble des travaux dont il va être question ce soir partagent, je crois, le même effort critique en ce que tous rompent avec, à leur manière, avec les façons, sans doute encore dominantes dans nos sociétés, de concevoir l'identité sexuelle ou l'affiliation, des manières qu'on peut qualifier de fondamentalement, je dirais, naturalistes. Tous ces travaux rompent avec ce qu'on pourrait appeler l'évidence du biologique, c'est-à-dire avec l'idée selon laquelle les identités sexuelles, les phénomènes de filiation, de procréation, découleraient directement de la nature, ou découleraient, on pourrait presque dire, naturellement de la nature. En s'appuyant sur les enseignements du culturalisme, qui montrent la très grande variabilité de la façon dont les identités sexuelles et les phénomènes de filiation, de procréation sont construits selon les sociétés et les groupes sociaux, si on veut employer ce terme de construction, mais aussi en s'inspirant de la sociologie de la connaissance, par exemple, qui insiste sur le fait que l'objectivité d'un phénomène est toujours le résultat d'un processus d'objectivation. Ces travaux font œuvre de sciences sociales. Ils mettent l'accent sur le travail des sociétés pour interpréter les phénomènes biologiques et les insérer dans un ordre social et pour produire socialement l'objectivité des divisions qui sont élaborées à ce sujet. Il reste, nous aurons l'occasion d'en débattre, que les chercheurs, s'ils ont donc, les chercheurs en sciences sociales, s'ils ont donc en commun de rompre avec le naturalisme, n'abordent pas nécessairement de la même façon l'articulation entre le biologique et le social. Certains courants pensent les constructions sociales à propos des phénomènes biologiques comme étant, si on peut dire, de pures constructions qui n'ont strictement aucune justification dans la matérialité et la corporéité, c'est-à-dire, en somme, des constructions purement arbitraires. D'autres, au contraire, pensent ces constructions en lien avec l'expérience matérielle et corporelle et refusent, pour cette raison, de les décrire comme totalement arbitraires. Donc j'en viens ainsi au second point, celui du fonctionnement critique de l'espace scientifique, autrement dit, l'existence de débats entre chercheurs. Ces débats, évidemment, sont intenses, ils sont à la mesure du fait que la soi-disant théorie du genre, on peut dire, n'existe pas dans la mesure où ce qui existe, c'est plutôt un ensemble de positions et de variantes, c'est-à-dire une théorie au pluriel, ou peut-être même des approches au pluriel sur le genre, échangeant et se critiquant mutuellement. Nous en aurons ce soir un exemple avec les travaux d'Irène Théry, qui se revendique des études de genre tout en défendant, à l'intérieur de cet espace, une approche spécifique, inspirée par l'œuvre de Marcel Mauss, approche dénommée relationnelle. Nous verrons aussi le travail de la critique à l'œuvre dans les travaux d'Henrik Porquerès, en ce qu'il s'oppose à la thèse courante en sociologie, en anthropologie, selon laquelle la parenté serait un phénomène en déclin dans les sociétés modernes, réputées individualistes. Une façon, finalement, de rejeter cette confusion assez fréquente chez les chercheurs entre idéologie individualiste et réalité des rapports sociaux, qui restent, eux, si on peut dire, des rapports d'interdépendance et de solidarité. Et enfin, le travail critique aussi avec l'ouvrage d'Emmanuel Devaux, qui, en décentrant son regard vers les mondes américains et australiens, en vient à remettre en cause un postulat sur lequel fait fond, sans l'interroger, une grande partie des sciences sociales, à savoir l'universalité de la polarisation entre hommes et femmes, façon de prendre finalement plus au sérieux encore peut-être la rupture avec le naturalisme, dans la mesure où ce qui est évident pour un Européen, la polarisation entre hommes et femmes, ne l'est pas nécessairement ailleurs, de sorte qu'il s'agit, nous dit l'auteur, de se situer avant le genre. Et il sera amené évidemment à nous préciser ce qu'il faut entendre exactement à travers cette formule. J'en arrive enfin, je terminerai là, au dernier moment critique que je voulais évoquer, celui des effets critiques dont les sciences sociales sont porteuses vis-à-vis des sociétés qu'elles étudient. Les choses sont bien évidentes, évidemment, à l'heure où vient d'être votée chez nous en France la loi sur le mariage pour tous, et où le débat fait rage concernant la GPA. Ici, nous verrons que les positions des chercheurs peuvent être très variables, je crois. J'anticipe, peut-être. Certains entendent s'engager résolument dans le débat public et contribuer à y modifier les rapports de force. D'autres, peut-être, se montrent plus réservés sur la possibilité de cette intervention ou sur son efficacité. Mais je crois que tous s'accordent à dire que le rôle des sciences sociales est sans doute moins de trancher de façon péremptoire le débat, un peu à la façon dont procèdent les experts, que de rendre discutable, ou plus discutable, ou mieux discutable, les termes de ce débat. Et on peut espérer, on espère que ce sera un effet des échanges que nous allons avoir ce soir, que de permettre de rendre certains débats plus discutables. Voilà, alors je vais maintenant donner la parole à nos intervenants. Alors, prévu d'organiser les choses en différents tours de table, autour de questions relativement précises. Je proposais à nos intervenants peut-être d'expliciter quelle articulation ils opèrent dans leurs travaux entre, disons, le biologique et le social, manière donc d'illustrer un petit peu et de préciser ce que j'ai dit dans mon introduction. Donc je vais peut-être me tourner vers Henrique Porquerès, peut-être en premier, sur cette question. Très bien.
Merci de me permettre d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est important, en effet, qu'on puisse débattre entre nous déjà et qu'on le fasse face à un public plus large, c'est d'autant mieux. Donc, en relation à ce que donc tu viens de souligner, cette relation entre biologique et social, bon, elle occupe la pensée de l'anthropologie de la parenté depuis belle lurette. Et je pense que dans l'ouvrage que j'avais dirigé en 2009, c'est un ouvrage qui est issu d'un projet européen de recherche et qui avait comme vocation première de rendre accessible en français un certain nombre d'auteurs qui publient uniquement en anglais ou dans d'autres langues. Je pense que cet objectif-là a été atteint. Mais je pense qu'en plus, le livre donne à penser justement et m'attire à penser justement cette articulation entre biologique et social. Je crois qu'en anthropologie de la parenté, du moins dans une certaine anthropologie de la parenté, on est un peu éloigné de cette dichotomie biologique-sociale et on essaie d'être tout près des façons de dire des gens, des représentations et des actions des gens qui ne semblent pas tenir compte forcément de ces barrières nature, culture, biologique, sociale. Tout est beaucoup plus mêlé. L'article de Janet Edwards, en particulier, fait ces points-là. Personnellement, j'adhère à ce type de proposition. Je crois que l'anthropologie de la parenté, depuis les critiques, les moments très critiques des années 70 autour de David Schneider, et ensuite avec la prolongation de ces formulations critiques à travers des gens très importants comme Marlene Strathern ou Sarah Franklin, avait un peu, à un moment donné, surtout avec David Schneider, semblait que, justement, nous, on avait projeté de la biologie partout, alors que la biologie était fondamentalement une préoccupation occidentale qui collait plus ou moins avec notre notion de parenté, mais que, en fait, l'anthropologie de la parenté était allée un peu trop vite, en calquant nos représentations sur ce qu'est la parenté ailleurs. Et alors, ça semblait condamner l'anthropologie de la parenté à la disparition. Et en fait, elle est disparue de certains enseignements, de certains départements. Mais petit à petit, il y a eu des réponses très discrètes. Et ces réponses passent en partie par quelque chose de fondamental, qui est l'attention portée à ces discours natifs, d'un côté, et puis après à la corporité. Alors la corporité apparaît, parce que la biologie, bien sûr, c'est une catégorie qui nous est propre. Mais la biologie, ça fait aucun sens, parler de biologie pour discuter de la parenté chez les Arandas ou chez je ne sais pas qui, en Amazonie. Donc, ce qu'on trouve un peu, je pense que c'est un peu en arrière-plan de ce livre-là, et ce qu'on trouve un peu partout, c'est l'idée que, finalement, quand on veut parler des parentés, on a quand même, ici et là, des récurrences. Ces récurrences passent par des façons de dire la proximité entre les personnes. Ces façons de dire la proximité entre les personnes s'articulent, par exemple, dans le cas des prohibitions d'inceste. Et ces prohibitions d'inceste, de façon récurrente, expriment donc les relations interdites en termes de proximité corporelle. Il peut y avoir d'autres prohibitions d'inceste, mais toutes semblent dériver de là. Donc un corps relationnel, qui a été pensé, par exemple, par Françoise Héritier à partir de l'économie des humeurs, dans les années 80, dans les années 90, a été au centre de certains débats. Je pense qu'aujourd'hui, on va un peu au-delà de ce type d'approche. Je pense que dans le livre, vous pourrez trouver donc justement comment il ne s'agit pas uniquement de, fluide qui dirait la parenté ou la filiation, si vous voulez, entre les personnes, parce que dans le cas des adoptions, il est bien évident qu'il n'y a pas de lien génétique, même pas biologique, entre les personnes concernées. Mais on trouve tout de même donc, cette insistance sur un corps qui est témoin d'un lien, les ressemblances. Hein. Corinne Fortier, Sidney Howell, John Bestard, beaucoup de gens ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. En l'absence de toute connexion génétique, donc les parents adoptifs, les enfants et les parents qui ont protagonisé donc, des donations de gamètes, insistent là-dessus lourdement. Alors c'est encore donc, c'est les gestes, c'est la façon d'articuler, c'est la façon d'argumenter, les pauses qu'on fait quand on parle, la façon de regarder les gens. Bon, c'est normal. Hein. Donc, ces corps-là apparaissent toujours donc, comme quelque chose de fondamentalement présent. Alors, en ce qui concerne la distinction des sexes, particulièrement, je suis toujours séduit par les propositions de Françoise Héritier qui nous confronte à ce qu'elle appelle les évidences du corps. Des évidences du corps, entre autres, la différence sexuelle entre hommes et femmes. Je pense que là, si on met ensemble les deux choses, donc d'un côté, des discours, par exemple sur les ressemblances, qui viennent affirmer de façon performative donc les liens de parenté à travers une inscription dans des corps qui sont mis en rapport les uns avec les autres, donc cette façon de faire de la parenté, si on veut dire, entre guillemets, socialement, et d'un autre côté, ces cadres indépassables, à mon sens, qui est ces corps qui, en même temps, qui est quelque chose de manipulable, quelque chose d'utilisé dans la sphère sociale et dans la sphère des relations, est en même temps et opère en même temps, et là je me tourne un peu vers la philosophie, une certaine philosophie phénoménologique du XXe siècle, Merleau-Ponty, opère en même temps comme une instance synthétique a priori, un cadre indépassable de notre expérience dans le monde. Nous sommes dans le monde avec un corps. Et cela a des conséquences. Bon, je m'arrête là, peut-être. C'est un peu la toile de fond de cet ouvrage, et en tout cas, ça correspond assez avec ma propre position sur le sujet.
D'accord. Alors, j'ai envie de passer la parole à Emmanuel Desvaux, qui va... Hein
ben, je te remercie.
Oui, qui va nous parler peut-être aussi un peu de phénoménologie.
De phénoménologie, oui, et oui, mais sur des objets, de façon très concrète, en fait. Puisque, comme tu l'as très bien compris, Cyril, on m'entend là, ça marche? Voilà. Avant le genre triptyque d'anthropologie hardcore n'est pas un livre qui prétend revenir à un déterminisme biologique des comportements sociaux. Au contraire, ce qu'il cherche à faire est à montrer comment les interprétations que les différentes cultures donnent du phénomène de la reproduction biologique en tant que phénomène naturel, influent en grande partie leur façon très différente de gérer la polarité entre les hommes et les femmes. Alors son titre, volontiers un peu provocateur, comme d'aucuns l'ont bien perçu, avant le genre, suggère que là où les théories, mais je pense que c'est quand même des théories, puisque à partir du moment où on introduit un nouveau concept, on articule forcément un nouveau concept, le genre, à une théorie. Donc c'est faux. On ne peut pas renier l'expression la théorie ou les théories du genre. Nous ont personnellement pas beaucoup aidé pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue anthropologique dans les différentes cultures du monde. Car notre projet, dans la lignée de nos travaux précédents, vise à saisir des grandes aires culturelles à travers lesquelles les choses se présenteraient globalement de la même façon, mais aussi de façon contrastive entre ces différentes aires. Donc c'est notre anthropologie est résolument comparative et nous avons identifié 3 aires pour le moment. Ce livre est aussi témoignage d'un travail en procès. On ne peut pas toujours attendre que tout soit achevé pour publier. Donc les 3 aires en question, c'est l'Amérique, l'Australie et l'Europe, d'où notre sous-titre qui semblait un peu énigmatique à certains, mais donc triptyque d'anthropologie hardcore. Le hardcore étant, d'une part, un clin d'œil aux quelques pages que nous avons consacrées à la pornographie dans la partie européenne, et d'autre part, la volonté d'affirmer que des thématiques qui avaient été cruciales à l'anthropologie classique
notamment la parenté. Et de ce point de vue-là, je rejoins entièrement Enrique, nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde, sont des sujets qui sont réellement dignes de réflexion encore aujourd'hui, alors que beaucoup de nos collègues anthropologues semblent refuser même de parler de parenté, considérer que tout ça n'a plus aucun intérêt. Donc le hardcore, c'est pour réaffirmer quand même qu'on est dans le cœur même de ce que constitue à nos yeux la parenté. Trois tableaux. Donc je vais me permettre de les résumer un peu très brièvement pour qu'on comprenne un peu l'articulation entre eux. Le premier, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, où j'ai beaucoup travaillé dans les travaux antérieurs. Donc là, j'ai fait un choix un peu radical, mais qui me paraissait d'un point de vue méthodologique intéressant. C'est j'ai choisi de commenter presque mot à mot un très beau texte rituel écrit au début du XXe siècle par un Indien Meskwaki, Alfred Kayana. C'est un texte chargé de poésie, c'est un texte superbe. Et donc, il me semblait que c'était une très très bonne introduction à l'Amérique elle-même. Parce que ce texte raconte la saga d'un couple, Black Rainbow, et sa nièce Dear Horn, qui en quelque sorte, par un processus de jeûne, un processus de mystique, on peut le dire comme ça, de parcours mystique, on arrive à fonder un clan, mais ce clan est considéré plus ou moins comme l'équivalent d'un être vivant, d'une naissance. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce texte, c'est qu'au fond, on s'aperçoit que non seulement il mobilise donc tous les grands thèmes de la mythologie américaine, ce qui me permettait donc de renouer avec les leçons de Lévi-Strauss, notamment des mythologiques, mais au-delà de ça, ça nous permettait donc de montrer que, et c'était peut-être quelque chose qui avait légèrement échappé à Lévi-Strauss, c'est que la relation des sexes, pour autant qu'elle est fertile, est une affaire de périodicité maîtrisée. C'est-à-dire qu'au fond, la fertilité des hommes est une fertilité journalière, celle des femmes est une fertilité mensuelle, et que c'est la combinaison de ces deux temporalités différentes, la conjonction dans certaines circonstances, la combinaison donc qui crée fait que le rapport sexuel devient un rapport fécondant et qui est à la tête, qui explique en quelque sorte la conception possible. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, et les autres données américaines que je connais bien vont dans ce sens, c'est qu'au fond, la conception elle-même est vraiment d'ordre mystique. Il ne se passe rien qu'une rencontre. Après, effectivement, dès lors qu'il y a gestation, qu'il y a naissance et qu'il y a allaitement, on est du côté du féminin, mais la conception même d'un être à venir est un être, c'est une conception qui est de l'ordre de l'abstraction pure, c'est de l'ordre de la rencontre des sexes, et dans ce point de vue-là, ce type de rencontre ne suppose pas une domination d'un sexe par un autre, comme on pourrait le penser. La deuxième partie est consacrée à l'Australie. Elle est peut-être la plus polémique parce qu'elle réhabilite quelque chose qui avait fait les beaux jours de l'anthropologie et qui, polémique, Enrique connaît bien, qui est le fait que les premiers ethnographes de l'Australie avaient rapporté que les aborigènes ignoraient le rapport qu'il y avait entre la copulation et la fécondation. Donc, en d'autres mots, ils ignoraient la paternité physiologique. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement débattu. Et au fond, il y a un sens commun de l'anthropologie qui a commencé à mettre entre parenthèses cette idée, à dire que les aborigènes bluffaient en quelque sorte leurs informateurs lorsqu'ils disaient qu'ils ne savaient pas qu'il fallait qu'il y ait une relation sexuelle entre un homme et une femme pour faire un enfant. Et il m'a semblé qu'on pouvait revenir aux sources, il m'a semblé qu'on pouvait, pour réhabiliter cette leçon originelle de l'ethnographie australienne. Mais on pouvait aussi, et là c'était la leçon de Lévi-Strauss, on pouvait se tourner vers l'environnement naturel australien. Et quelque chose que Lévi-Strauss, qui lui-même avait dit non, c'est pas vrai, les aborigènes savent très bien qu'il faut un homme et une femme pour avoir un enfant, ils sont dans le refoulement, dans le déni. C'est tout à fait étonnant parce qu'au même moment, Lévi-Strauss, c'est dans la totémisme aujourd'hui qu'il écrit ça, mais au même moment, il écrivait La pensée sauvage. Or, qu'est-ce que l'enseignement de la pensée sauvage ? C'est de dire que nos catégories de pensée ou les catégories de pensée des différentes cultures sont en fait le résultat de l'observation des mécanismes naturels, l'observation de la nature. Et du coup, on s'aperçoit qu'en fait, les aborigènes avaient probablement pas les moyens dans leur nature d'avoir un modèle approprié pour concevoir donc la conception comme étant le résultat d'une rencontre sexuelle. Pourquoi ? Alors là, je ne vais pas développer parce que c'est très très compliqué. Je vous renvoie à mon livre, mais j'ai passé de nombreuses pages à commenter ou à rapporter les mœurs sexuelles des marsupiaux, qui sont tout à fait intéressants. Il faut savoir qu'en Australie, il n'y a que des marsupiaux. Évidemment, il y a des oiseaux, il y a des serpents, mais pour ce qui est des espèces animales qui sont les plus proches des nôtres et qui sont susceptibles d'être nos premiers modèles, les mammifères australiens sont tous des marsupiaux. Or, les marsupiaux, ça se passe pas du tout comme chez toutes les autres espèces de mammifères. On ne peut pas faire de corrélation entre une temporalité donnée et le moment où les petits vont naître. On ne peut donc pas faire une corrélation entre une copulation fécondante éventuellement et la naissance des petits, qui eux-mêmes d'ailleurs ne naissent pas à proprement parler, mais c'est entre le moment où ils sortent de l'utérus, un petit kangourou à 3 mm de long quand il sort de l'utérus de sa maman tout au fond de la poche, et il va se développer progressivement. Donc c'est une gestation externe, mais pas tout à fait externe, et la naissance n'est pas du tout un phénomène traumatisant comme ou un phénomène de rupture, comme elle peut l'être dans tout, chez toutes les autres espèces, tous les autres mammifères, nous-mêmes inclus. Donc au fond, l'argument au cœur même de cette partie, c'est que les Australiens n'avaient pas dans la nature le modèle pour penser leur propre procréation, la pensée en nos termes, mais ils la pensaient dans leurs propres termes. Donc c'est bien ça la question. Et puis bon, cette partie, pour ceux qui aiment un peu l'anthropologie classique, c'est une sorte d'invitation à relire les textes classiques, puisque, comme vous le savez, l'Australie a été un grand, peut-être un peu, l'Australie était un grand moment de la réflexion anthropologique, disons entre jusque dans les années 60-70, avant que ça paraisse moins intéressant. Mais donc j'essaye de revisiter un peu toute cette littérature, Durkheim bien sûr, donc je rends hommage à ses intuitions très fortes, même si et puis Radcliffe Brown, Lévi-Strauss, qui, à mon sens, a loupé l'Australie, il n'a pas compris l'Australie justement, et puis un auteur méconnu, mais très très important, qui s'appelle Karl von Brandenstein, et sur lequel je m'appuie pour faire ma démonstration. Et la dernière partie, c'est l'Europe. Alors l'Europe, l'Europe, évidemment, j'ai pris un parti un peu plus complexe, parce que l'Europe, on ne peut pas embrasser toute l'ethnographie de l'Europe, compte tenu de son histoire extrêmement riche. Donc je me suis plutôt basé sur une sorte d'analyse iconologique, une analyse un peu de la littérature et tout ça. Et j'ai essayé de faire un parcours en montrant qu'il y a une sorte de constance dans l'univers européen, c'est l'objectivation de la femme. Donc de ce point de vue-là, je suis profondément féministe. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'au fond, à travers l'analyse d'un certain nombre de tableaux, l'analyse des nativités, l'analyse d'une pièce de théâtre, L'Avare, que vous avez tous lu, mais peut-être qu'il y a encore des choses à lire dans L'Avare qui vous avaient échappé. J'essaie de montrer qu'au fond, l'important dans le cycle européen, c'est la valorisation de la femme, la valorisation comme objet érotique. Ce que je montre aussi, c'est en faisant l'opposition entre le bovin et le cheval, c'est qu'au fond, il y a une sorte de dichotomie entre fertilité et érotisation dans l'univers occidental. Et dans d'autres univers, comme l'univers chinois, sans aucun doute, l'univers indien, etc. etc. Mais vous n'avez pas ça en Australie, et vous n'avez pas ça en Amérique non plus. Donc il n'y a pas cette dichotomisation entre fécondité, fertilisation et érotisation de l'objet sexuel féminin. Donc je vois que je dois abréger. Oui. Je coupe. Tu me coupes, oui. Carrément. Ah bah alors, alors en deux mots, est-ce que je peux conclure quand même? Voilà. Oui. La question, c'est de dire que au fond, il y a trois modèles totalement différents de la conception. Un modèle donc qui pense que carrément les hommes et les femmes n'ont rien à voir dans la conception. Il y a un autre modèle qui est le modèle américain qui pense que les hommes et les femmes ont à voir dans la conception, mais c'est une question de temporalité. Il y a un troisième modèle qui est le modèle européen avec ses extensions, qui est au fond un modèle qui pense que profondément, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'hérédité biologique. Et cette hérédité biologique introduit l'idée d'un investissement. C'est-à-dire que si moi, je suis capable de transmettre des qualités à travers une autre personne, ça change totalement la donne de ce que c'est que la procréation et partant de ce que c'est éventuellement le mariage. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la thèse.
D'accord. Bon. On reviendra là-dessus, mais c'était pas totalement répondu à la question, mais c'est pas grave. Et ça t'a pris beaucoup de temps aussi, tu seras pénalisé, sache-le. Je me tourne vers Irène pour lui reposer la même question.
Merci. Oui, donc, qui est bien, comment dans mon travail s'articule, ou en particulier dans les livres que tu as cités, s'articule la question du biologique et du social. Donc moi, d'abord, je voudrais te remercier de poser la question avec les mots qui sont ceux du débat politique, du débat public. Hein, c'est pas des... C'est les mots qu'on entend, qu'on lit dans les journaux. C'est les mots que moi, j'ai entendus depuis des années. Par exemple, travaillant sur l'assistance médicale à la procréation, le débat social, il est organisé sur c'est quoi le parent d'un enfant ? Est-ce que c'est le parent biologique ou est-ce que c'est le parent social ? Donc, cette alternative avec une poussée vers le fait qu'il faudrait choisir, d'ailleurs, entre le biologique et le social, c'est pas des mots des sciences sociales, c'est des mots ordinaires, on va dire. Et donc, notre question, c'est peut-être de mettre à distance ces mots-là, d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette alternative. Parce que c'est pas simplement une différence, c'est une alternative qui est posée. Et on ne savait pas quand cette réunion a été programmée, dans quel contexte elle allait se dérouler. Mais enfin, il n'y a pas de demi-journée sans qu'on apprenne qu'une théorie du genre nous promettrait justement à lâcher tout le biologique pour tomber du côté du social, c'est-à-dire du grand n'importe quoi, en gros. Puisque chacun pourrait à sa guise décider le matin d'être une femme, l'après-midi d'être un homme, on n'appellerait plus les enfants par comme des garçons et des filles, on dirait quand on fait un enfant, on dirait j'ai fait oh, on dirait pas c'est un garçon, on dirait, c'est un bébé qui est là, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de fort, de passionnel autour de ça, et c'est très important pour nous d'essayer de le comprendre. Et d'autant plus que au fond c'est nous, comme sciences sociales, nos travaux qui sont mis en question en général, hein, sous cette étiquette, il y aurait une théorie du genre. Et Emmanuel, d'ailleurs, dans les prolégomènes de son livre, semble se ranger à cette disqualification, puisqu'il se détache de ce qu'il appelle le genre, qu'il voit comme une façon de prôner un constructivisme radical. C'est ce que tu dis, c'est exactement la thèse de ceux qui déprécient aujourd'hui donc une théorie du genre. Donc moi, je fais partie des chercheurs qui ont longtemps travaillé sans ce terme, parce qu'en France, on parlait pas de genre quand j'ai commencé à travailler dans les années la fin des années 70, début des années 80, on parlait de rapports sociaux de sexe, etc. On parlait de différence des sexes au sens d'une différenciation sociale des sexes. Le mot genre, il nous est venu des États-Unis, et il est venu, c'est clair, avec à la fois son attrait, c'est-à-dire c'est un mot simple, extrêmement efficace, hein, un mot simple pour dire masculin-féminin, un mot simple pour dire à la fois les rapports sociaux de sexe et masculin-féminin. Donc c'est très efficace. Et puis la culture anglo-saxonne, c'est la culture dominante aussi. Ça compte. Il faut savoir se sentir comme une culture dominée. Et moi, je me suis sentie quelquefois comme une culture dominée, par exemple, parce qu'en français, nous disposons d'atouts que les anglophones n'ont pas. En français, on peut dire distinguer sexué et sexuel, ce qu'on ne peut pas faire en anglais. Donc, par exemple, les anglophones avaient des problèmes pour nommer des questions. Par exemple, en anglais, on dit « sexual antagonism ». Ça ne veut pas dire l'antagonisme sexuel, ça veut dire l'antagonisme sexué, mais eux, ils n'ont pas cette distinction. Du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'utilise plus nos mots français, sexué, sexuel. On va dire « genré », ce qui est un néologisme qui est tout à fait... dans sa construction, contraire à tout ce que j'ai appris d'histoire des transformations des syllabes et tout ça dans mes anciennes études de lettres. Mais bon, on dit genré alors qu'on a sexué et que du coup on a un petit peu pris un problème avec l'opposition du sexe et du genre qu'on n'aurait pas eu forcément. C'est-à-dire le problème de la dualité du sexe et du genre. Donc, qu'on va retrouver à travers biologique, social. Donc, je dirais très vite que, pour moi, ce qui compte, c'est justement d'apercevoir que nous sommes héritiers d'une certaine construction des problèmes, et en particulier que l'opposition du sexe et du genre, ça s'est construit, on le sait, aux États-Unis, dans les années 60, dans des travaux sur le transsexualisme, ou pour décrire le phénomène, ce qui était, il faut essayer d'avoir de l'empathie pour les chercheurs de ce temps-là, pas juste les critiquer, c'est trop facile. Ils essayaient de parler du transsexualisme sans le ramener à une question sexuelle, sans avoir déjà comme idée qu'un transsexuel ou une personne transsexuelle était quelqu'un qui était un homosexuel refoulé. Donc ça, c'était les théories psychiatriques de l'époque. Hein. Et donc, ne pouvant pas assumer son homosexualité, une personne préférait se changer en l'autre sexe pour pouvoir, en quelque sorte, vivre sa sexualité sans affronter la complexité de le faire dans un contexte où, ça, vous le savez, l'homosexualité était psychiatrisée, etc. Donc, les psychologues, les psychiatres voulaient sortir de là et aborder la question de l'identité, qu'on appelle l'identité de genre, quelquefois, ça pourrait être discuté. En tout cas, la question trans, en tant que telle, sans ramener des questions de sexuées à des questions sexuelles. Et donc, c'est eux qui proposent, en particulier Robert Stoller, qui propose de décrire ce phénomène grâce à l'opposition du sexe et du genre. Et en fait, cette opposition, on s'aperçoit très vite qu'elle repose sur une certaine conception, non pas simplement du problème transsexuel ou de la question du genre, mais de la question de la personne. Voilà. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne serait constituée de deux parties, hein, un corps doté d'une identité de sexe, et dans ce corps, un moi, a self, doté d'une identité de genre. Et donc l'intérêt de cette dichotomie, c'était de pouvoir dire qu'une personne trans, c'était quelqu'un qui avait un corps d'un sexe et un genre qui ne correspondait pas à ce sexe, mais qu'il fallait être capable d'entendre cette identité de genre. Et donc, moi, pour dire les choses très vite, ce qui me pose problème depuis très longtemps, c'est le fait de voir que derrière les débats sur le genre, il y a en fait des débats sur des questions qui ne sont pas purement politiques, par exemple, hein, mais qui concernent les grands paradigmes de nos disciplines. Qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce que la société? Etc. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans les travaux que j'ai pu lire et avec lesquels j'ai pu travailler, c'est le fait que, bien que moi je travaille sur des sujets tout à fait d'ici et maintenant, je travaille sur les transformations de la famille, sur l'assistance médicale à la procréation, sur la transformation du mariage, sur l'homoparentalité, nous avons récemment organisé aussi à Marseille un colloque sur un sujet qui n'est pas encore dans l'agenda, mais qui va venir certainement très conflictuel sur l'expérience transgenre de la parenté, par exemple, mais nous essayons de le faire en prenant distance, comme on l'a toujours fait dans nos disciplines, en renouant avec l'anthropologie historique et comparative, en nous donnant les moyens d'un regard éloigné. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que le fait que tout ce travail soit balayé d'un revers de main un petit peu par Emmanuel, m'a un peu gênée, parce que moi, je travaille depuis près de 15 ans avec des anthropologues amazonistes, mélanésianistes, qui trouvent absolument pas choquant d'utiliser le terme de genre et qui ne sont pas des constructivistes échevelés. Donc, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est... Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Henrik, c'est de prendre distance avec une conception occidentale, moderne, présentiste de la personne, donc cette conception dualiste de la personne constituée d'un moi et d'un corps. Et ce qui a été pour moi une sorte de libération, c'est quand j'ai lu des anthropologues comme Marilyn Strasern qui disait « mais cette conception de la personne, en fait, je ne peux pas la transposer dans mes études que je fais sur une population de Mélanésie dont elle s'occupe, ou de Papouasie, hein, on ne peut pas transférer parce qu'ils n'ont pas du tout la même conception de la personne que chez nous. Et en fait, donc, il y a derrière les conceptions du genre, il y a des présupposés implicites sur la personne. Et ce qui est intéressant, c'est donc de montrer que on peut échapper à ce dualisme en considérant que, d'abord, cette conception dualiste, elle a une histoire occidentale. Donc, dans un livre qui n'est pas publié aux éditions de l'école, mais qui existe quand même, qui est La distinction de sexe, qui est un gros pavé, je retrace toute l'histoire longue de la notion de personne en Occident. Mais surtout, ce qui est important, c'est effectivement qu'on échappe avec l'anthropologie à cette notion du biologique. Le mot dont on ne peut rien faire en sciences sociales, c'est « biologique ». Parce que « biologique », ça serait du corps qui serait, en quelque sorte, à quoi on aurait enlevé tout son contexte d'un monde humain dans lequel nos corps sont. On ne peut pas vivre une vie humaine en dehors du contexte d'une société humaine. Hein, c'est la grande apport de Wittgenstein. Hein, ce qu'il faut accepter, le donner, ce sont des formes de vie humaines. On ne peut pas parler d'un être humain, homme ou femme, garçon ou fille, ou trans, en dehors du contexte d'une société humaine. Et donc, le corps, effectivement, c'est ce qui disparaît dans la notion de biologique. Donc, je participe avec Henrik, avec Emmanuel, même s'il ne le sait pas, de ceux qui essayent de penser que le corps, c'est pas le biologique, justement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre deux choses qu'on confond souvent. C'est on peut regarder une personne, par exemple mon voisin, et on peut avoir plusieurs descriptions d'une personne. C'est tout à fait logique de dire je peux décrire cette personne en tant qu'il est un organisme physiologique, et je peux avoir le regard du biologiste sur une personne, mais je peux aussi avoir un autre regard. Mais ce sont des descriptions d'un seul objet, et ce ne sont pas les descriptions de plusieurs objets. Ça, il y a vraiment très souvent cette confusion, mais disons que, voilà, l'opposition du biologique et du social, telle qu'elle avait été conçue à travers l'opposition du genre et du sexe d'une personne, c'était l'opposition du moi et du corps, comme si, à l'intérieur de moi, il y avait un homoncule, hein, un petit individu qui serait mon moi. Donc là, il y a des articulations entre l'anthropologie et la philosophie. Donc pour moi, ça sera moins la philosophie, la phénoménologie, que la philosophie analytique avec laquelle j'ai travaillé, en particulier avec Vincent Descombes, qu'on a honoré récemment ici même, et donc qui montre que ce par quoi il faut passer pour dépasser ça, c'est par une conception de l'esprit et de l'action. Donc là, peut-être on retrouvera des choses qui t'intéressent. Hein. Moi, je pense qu'on peut échapper au dualisme en disant je n'ai pas un corps, parce que où serait ce moi qui serait possesseur d'un corps, hein. On peut dire tout simplement je suis un corps, pas j'ai un corps. Si on n'accepte pas, donc disons de faire une hypostase qui serait mon moi, donc je suis un corps, mais un corps effectivement agissant, pâtissant, ressentant à la manière humaine. Et tout ce qu'on va mettre, en fait, derrière la notion « le moi », c'est mes façons d'agir, de pâtir, de ressentir, etc. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est effectivement les travaux des anthropologues qui, par exemple, j'y pense parce qu'on inaugure aujourd'hui à Marseille le MUCEM, vous savez, il y a une exposition qui s'appelle « Masculin-féminin, le bazar du genre ». Elle fait écho à une autre qui a eu lieu, qui était... Je me dis, c'est intéressant quand même. Le dernier musée d'anthropologie, c'était quand même le musée du Quai Branly. La première exposition, c'était « Qu'est-ce qu'un corps ?» Et c'était nos collègues qui l'avaient organisé et qui mettaient en comparaison, justement, quatre conceptions du corps en Amazonie, en Mélanésie, en Afrique de l'Ouest et en Europe. Voilà. Et je crois que là, c'est très important, je termine, que si nous pouvons... Donc ça, on peut croire qu'on perd son temps quand on fait tout ce travail de discuter avec nos collègues historiens, anthropologues, des sociétés très lointaines, et quand on discute, quand on travaille sur le mariage pour tous ou sur l'homoparentalité, mais pas du tout. C'est vraiment indispensable pour apercevoir que on va avoir un regard beaucoup plus tranquille sur les changements actuels si on ne commence pas par entrer à deux pieds joints dans une opposition sans issue entre le biologique et le social.
Merci beaucoup. Bon, je pense qu'en fait, il y a sans doute beaucoup plus de convergence entre vous, peut-être.
Oui, mais comme il a provoqué...
Parce que vous êtes tous des chercheurs en sciences sociales, donc vous êtes tous sur des positions...
Il a provoqué.
Oui, bien sûr, mais alors, c'est bien.
J'ai répondu.
Alors, justement,
On en vient au second tour que je voulais faire, les débats, c'est-à-dire que vous êtes tous animés par un espace, vous êtes tous engagés dans un espace de débat, et peut-être ça serait intéressant de mieux préciser pour chacun, j'allais dire, quels sont vos adversaires, disons vos interlocuteurs principaux, à quoi vous... Voilà, essayez peut-être de camper un espace de débat, de positions différentes et d'arguments échangés. Peut-être on peut commencer avec Henrik.
Oui, merci. Donc moi, je vais revenir à Melanie Strathern. Alors, je suis moins enthousiaste qu'Irène à ses propos. On peut bien sûr être d'accord sur le fait que la personne est conçue différemment ici à Mélanésie. Je pense que là, on s'accorderait. Ce qui m'a beaucoup gêné dans les champs des nouvelles technologies de reproduction, bon, l'anthropologie de la parenté avait toujours tourné le dos à l'Europe et au monde contemporain. C'est David Schneider qui, en 1968, écrit « American Kinship ». Pour la première fois, l'anthropologue s'intéresse à une société urbaine, classe moyenne, contemporaine, pour déduire que la parenté n'existe plus, qu'existe uniquement la famille. Quelques années après, Strathern dit « même pas la famille, c'est l'individu qui existe ». L'individu radical donné à voir déjà dans les échographies, dans sa proto-humanité. C'est cet individu-là sur lequel on va greffer des relations. On voit un fond noir, c'est la mère. Bon, c'est la mère. Un fond noir, il y a un embryon, ou quelque chose qu'on nous dit que c'est un embryon. On nous apprend à le reconnaître dans sa proto-humanité. On nous dit qu'il a des droits. Et alors, attention, ce n'est pas des droits parce qu'il appartient à une lignée. C'est des droits parce qu'il est une icône de l'humanité. C'est un individu. Bon, alors, out les relations constituantes en Occident. Du moins en Angleterre. Et c'est là, dans une rhétorique très anthropologique du contraste. Les Mélanésiens, eux, ils sont très différents. Là, c'est des personnes relationnelles. Donc chacun est fait des bouts de relations, des bouts d'autres personnes. Il s'effaçonne toute sa vie durant. Voilà, deux mondes complètement séparés. Moi, ça m'avait énormément agacé, parce que c'est redire à nouveau « the West and the Rest ». Donc nous sommes complètement différents. Nous n'avons pas de parenté, d'ailleurs. Nous avons de la famille, voire de l'individu. Eux, les autres, ils ont de la parenté. C'est deux humanités. Et moi, ça, personnellement, ça m'a énormément agacé. Et ma façon de me construire dans ces champs des nouvelles technologies de reproduction a été justement d'essayer de débattre avec Melanie Strathern, pour laquelle j'ai une grande admiration, d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment une personne extraordinairement intéressante et extraordinairement intelligente. Mais voilà, moi, cette rhétorique donc du contraste m'a beaucoup gêné. Je pense qu'il y a de la personne relationnelle chez nous. On a eu du mal à le voir. Dans les années 90, les débats autour de la reproduction médicalement assistée focalisaient surtout sur l'importance. C'était une préoccupation qui était sociale et académique en même temps. C'était ce qui occupait toute la scène, c'était la souffrance des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants alors qu'ils aimeraient en avoir. La nature ne les aide pas, il faut que la société, la technologie les aide. Alors, voilà, on avait dans cette mouvance des auteurs très importants, donc Melanie Strathern, Sarah Franklin, beaucoup d'autres, avaient insisté sur ces faits-là. Donc on est confronté à une situation complètement nouvelle, on est confronté à un individu qui est radical. Il est donné à voir dès le début. Après, on établit les relations qu'il a, les relations de parenté. On va décider qui est sa mère. C'est le fond noir ou le fond noir, c'est seulement une mère porteuse. Alors la mère va être peut-être celle qui a donné l'ovocyte, ou alors la mère va être quelqu'un qui va adopter cet enfant ou cet proto-enfant. Et qui est le père? Bon, de même, qui est le père? Celui qui a donné son sperme, les maris de la femme qui va accoucher, ou encore quelqu'un qui va adopter l'enfant. Donc les relations, loin d'être constituantes de la personne, apparaissent comme après, venant après, after nature, justement. Et nature, c'est l'individu. Moi, j'avais trouvé ça, franchement, épistémologiquement et éthiquement, très problématique, insurgent même. Et bon, je me suis insurgé un peu. Et là, je pense que je ne suis pas le seul, heureusement. Donc, avec une série de personnes, on a commencé à partir des années 2000. Je vous ai parlé de ces projets européens, Public Understanding of Genetics. C'était là un des endroits, mais bien entendu, dans d'autres endroits. Il y a eu un mouvement de réponse, mais c'était un mouvement de réponse qui faisait écho à un mouvement social aussi, à une réalité sociale, si j'ose dire. Parce qu'un nouveau type de souffrance est émergé. C'est la souffrance des enfants nés de dons de gamètes ou des enfants adoptés internationalement et qui disaient « Mais écoutez, notre société nous parle tout le temps de génétique. Maintenant, le père n'est plus le mari de la mère, le mari de la mère, mais c'est lui qui démontre les tests génétiques. Quand je vais chez le médecin, il me demande « Quelle maladie il y a chez vous ?» Et « chez vous » veut dire « Dans ma généalogie génétique. » Donc, ne me privez pas de cette partie de moi. Il y a une vérité de moi qui est inscrite, ma société me l'a dit, qui est inscrite dans ces faits génétiques. Donc pourquoi je n'aurais pas accès à ces géniteurs qui me permettraient de donner un sens au visage que je vois dans les miroirs, peut-être tous les matins? Là, il y a eu, je pense, un mouvement. Donc il y a eu une souffrance qui est apparue, qui a fait bouger beaucoup de choses. L'anonymat des dons de gamètes est tombé dans beaucoup de pays, pas ici. La résistance du corps médical a été phénoménale ici, je pense. On a participé avec Irène justement à des débats là-dessus. On a vu ça. Donc la personne chez nous peut-être est plus relationnelle qu'on ne le pense et d'une façon très corporelle. On a aussi, si on analyse, tout un tas de dispositions concernant l'inceste, la prohibition de l'inceste. Depuis 1988, les parlements nationaux, les médecins, les anthropologues, partout, on avait des dispositions qui visaient à interdire, par exemple, qu'un homme donne trop de fois son sperme. Et par voie de conséquence, par parallélisme, qu'une femme donne trop de fois ses ovocytes. Pourquoi? Parce qu'autrement, on multiplierait les possibilités qu'un frère et une sœur couchent ensemble par inadvertance ou qu'un père puisse coucher avec sa fille par inadvertance. Donc, l'idée d'une personne relationnelle, d'une personne de la parenté, est bien là. Les livres donc, que j'avais dirigés est riche en ce sens. Maintenant, ces réunions claniques, entre guillemets, en Irlande, présentées par Caroline Legrand, donc les gens qui s'appellent par elle se réunissent en Irlande, font des grandes fêtes, une sociabilité qui démarre à partir de là, ils font des tests génétiques à partir du sang, curieusement. Il y a un investissement majeur. Donc, de cette personne relationnelle qui prend des dimensions importantes. Les nationalismes ethniques avant, avait bien montré que cette idée donc, d'une grande famille nationale qui s'inscrivait dans les sangs, les jus sanguins, etc., avait aussi une portée. Donc je pense que là, petit à petit, j'ai encore le temps. On est arrivé à une situation dans laquelle, justement, on peut mettre en crise fortement et de façon fondée ce vieux clivage entre société apparentée et société sans parenté. Que ce soit famille ou individu. Et si on prend en compte les débats épistémologiques en anthropologie de la parenté, surtout dans les années 70-80, répondant aux impasses créées par Schneider et compagnie, on nous a parlé de l'importance des liens cosmologiques de la parenté. Les indianistes de Chicago, François Héritier, je pense que beaucoup de mélanésianistes, beaucoup d'américanistes, beaucoup d'africanistes, je pense que maintenant quelques européanistes aussi. Donc, on nous a appris à voir que chez nous aussi, la parenté, ou ce que nous appelons parenté, est à comprendre, pas comme quelque chose qui est en rapport avec du biologique, mais avec des corps, et des corps qui sont en relation avec d'autres entités. Quand on nous dit maintenant, on ne peut pas cloner l'enfant, parce que c'est porter atteinte à la dignité de la personne humaine, parce que ce serait impossible de vivre une vie digne en se sachant la copie d'un autre. Mais tout le monde sait qu'un clonage parfait est impossible. L'épigénétique vient déterminer l'expression du matériel génétique de base. On sait bien que tout ça, ce sont des fantasmes. Et pourtant, on continue. Et on nous parle aussi de cette maintenant, de cette... Donc là, il y a des élucubrations presque métaphysiques. Et à côté, on nous dit aussi, les sciences maintenant nous disent, non mais écoutez, donc quand on parle donc des transmissions héréditaires, justement, de ces codes, de l'ADN, etc., on nous parle de la grande chaîne du vivant, encore une fois, parce que les premières bactéries nous auraient fourni la base de tout cela. Et on partage la plupart de notre code génétique avec toutes les espèces vivantes, qu'elles soient présentes aujourd'hui ou déjà disparues. On nous parle de cette espèce de cosmologie. Et à regarder de près les choses, on est dans des configurations qui sont très connues par les anthropologues. Parce que les systèmes d'échanges généralisés sont en rapport avec la création du monde, que les mariages dans les systèmes d'échanges généralisés, comme les aimés Lévi-Strauss, sont en relation avec la création du monde, on le savait. Mais il se trouve que chez nous, les choses sont à peu près pareilles. Et donc, je pense que... Bon, voilà, mes oppositions et mes façons de
manifester. Tes énervements, dont tu nous as dit, tes énervements de motivation de départ, peut-être...